Alphonse Allais, l'affaire Blaireau. Chapitre 1er, dans lequel on fera connaissance, premièrement, de M. Jules Fléchard, personnage appelé à jouer un rôle assez inconsidérable dans cette histoire, deuxièmement, un nommé Placide, fidèle serviteur, mais protagoniste, dirait Bauer, de 11e plan, et troisièmement, si l'auteur en a la place, du très élégant baron de Haut-Pertuis. Madame de Chaville appela. « Placide, madame, vous pouvez les servir. »« Bien, madame. » Et madame de Chaville alla rejoindre ses invités. Resté seul, le fidèle serviteur Placide grommela l'inévitable. « Oh, c'est pas trop tôt. J'ai cru qu'il n'en finirait pas. » Puis il parut hésiter entre un verre de fine champagne et un autre de chartreuse. En fin de compte, il se décida pour ce dernier spiritueux, dont il lampa une notable portion avec une satisfaction évidente. Bientôt, semblant se raviser, il remplit son verre d'une très vieille eau-de-vie qu'il dégusta lentement, cette fois en véritable connaisseur. « Oh tiens, Monsieur Fléchard !» Un monsieur, en effet, traversait le jardin, se dirigeant vers la véranda, un monsieur d'aspect souffreteux et pas riche, mais propre, méticuleusement et non dépourvu d'élégance. « Bonjour, Baptiste, » fit l'homme peu robuste. « Pardon, monsieur Fléchard, pas Baptiste, si cela ne vous fait rien, mais Placide. Je m'appelle Placide. » « Oh, ce détail me paraît sans importance, mais puisque vous semblez y tenir... « Bonjour, Auguste. Comment allez-vous ?» Et le pauvre homme se laissa tomber sur une chaise d'un air las, si las. Oh, « Décidément, monsieur Fléchard, vous faites un fier original. »« On fait tout ce qu'on peut, mon ami. En attendant, veuillez prévenir mademoiselle Arabella de Chaville que son professeur de gymnastique est à sa disposition. » Son professeur de gymnastique, pouffa Placide. « Ah, monsieur Fléchard, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait bien rigoler le jour où vous vous êtes présenté ici comme professeur de gymnastique. » Sans relever tout ce qu'avait d'inconvenant, de familier et de trivial, cette réflexion du domestique, monsieur Fléchard se contenta d'épauger son front ruisselant de sueur. J'ai oublié de le dire, mais peut-être en est-il temps encore. Ces événements se déroulent par une torride après-midi de juillet à Montpaillard, de nos jours, dans une luxueuse véranda donnant sur un vaste jardin ou un pas très grand parc ad libitum. Un petit verre de quelque chose, monsieur Fléchard, proposa généreusement Placide, sans doute pour effacer la mauvaise impression de sa récente et intempestive hilarité. « Oh non, merci, je ne bois que du lait. Un cigare, alors ? Oh, ils sont épatants, ceux-là, et pas trop secs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur Fléchard, j'adore les cigares légèrement humides. Du reste, à la Havane, où ils sont connaisseurs, comme de juste, les gens fument des cigares tellement frais qu'en les tordant, ils sortent du jus. Saviez-vous cela ? J'ignorais ce détail, lequel m'importe peu du reste, car moi, je ne fume que le nihil à cause de mes bronches. L'illettré Placide ne sembla point goûter intégralement cette plaisanterie de bachelier dévoyé, mais pour ne pas demeurer en reste d'esprit, il conclut « Eh bien, moi !» Je ne fume que les poulots à monsieur. Cela vaut mieux que les pulotinos que vous pouviez vous offrir vous-même. Oh, cette fois, Placide, ayant saisi, éclata d'un gros rire. Farceur, va. Et mademoiselle Arabella, Victor, quand prendrez-vous la peine de l'aviser de ma présence ? Ah, mademoiselle Arabella joue au tennis en ce moment avec les jeunes gens et les jeunes filles. C'est la plus enragée du lot, vieille folle, va. Jules Fléchard s'était levé tout droit. Visiblement indigné du propos de Placide, il foudroyait le domestique d'un regard furibond. Je vous serais obligé, mon garçon, tout au moins devant moi, de vous exprimer sur le compte de Mademoiselle Arabella en termes respectueux. Mademoiselle Arabella n'est pas une vieille folle. Elle n'est ni folle ni vieille. Oh, c'est tout de même plus un bébé, 33 ans. Elle ne les paraît pas, là est l'essentiel. Éreinté par cette brusque manifestation d'énergie, le professeur de gymnastique se rassit, le visage de plus en plus ruisselant, puis d'un air triste. « Alors, vous croyez que Mademoiselle Arabella ne prendra pas sa leçon de gymnastique aujourd'hui ?»« Puisque je vous dis que quand elle est au tennis, on pourrait bombarder le château, que ça n'arriverait pas à la déranger. » Placide aimait à baptiser château la confortable demeure de ses maîtres. Oh, tant pis, retirons-nous. Et la physionomie de Jules Fléchard se teignit de ce ton gris plombé, pâle indice certain des pires détresses morales. De la main gauche, alors, prenant son chapeau, notre ami le lustra au moyen de sa manche droite. Beaucoup plus par instinct machinal, croyons-nous, qu'en vue d'étonner de son élégance les bourgeois de la ville. Il allait sortir quand un troisième personnage fit irruption dans la véranda. « Bonjour, monsieur, je vous salue. Dites-moi, Placide, le facteur n'est pas encore venu ?»« Oh, pas encore, monsieur le baron. » Cependant, Fléchard considérait attentivement le gentleman à monocle que Placide venait de saluer du titre de baron. Mais non, il ne se trompait pas. C'était bien lui, le baron de Maupertuis. « Monsieur le baron de Maupertuis, j'ai bien l'honneur de vous saluer. » Le baron, décidément c'est un baron, ajusta son monocle, un gros monocle pour gens myopissimes, fixa son interlocuteur, puis, soudain joyeux, « Comment ? Vous ici, mon bon Fléchard ? Du diable, si je m'attendais à vous rencontrer dans ce pays !»« Oh, je suis une épave, monsieur le baron, et vous savez que les épaves ne choisissent pas leur séjour. »« C'est juste, les épaves ne choisissent pas leur séjour, c'est fort juste. Mais dites-moi, il y a donc quelqu'un chez les Chaville qui apprend le hollandais ?» « Le hollandais ?» fit Fléchard en souriant. « Pourquoi le hollandais ?»« Mais il me semble, » poursuivit le baron, « que quand j'ai eu l'avantage de vous connaître... » Fléchard se frappa le front et s'écria. « Oh, par ma foi, monsieur le baron, je n'y pensais plus. Oh, cet épisode de mon existence m'était complètement sorti de la mémoire. » en effet, je me rappelle maintenant à merveille. Quand j'eus l'honneur de faire votre connaissance, j'enseignais le hollandais à une demoiselle, à la belle Catherine d'Arpajon. Quelle jolie fille! Oh, la matine! À ce propos, Fléchard, dites-moi donc, quelle étrange idée avait eu Catherine d'apprendre le hollandais? Le hollandais n'est pas une de ces langues qu'on apprend sans motif grave. Oh, c'est toute une histoire, monsieur le baron, et que je puis vous conter maintenant sans indiscrétion. Catherine d'Arpajon avait fait connaissance aux courses d'Auteuil d'un riche planteur fort généreux, mais qui ne savait pas un mot de français. En quittant Paris, cet étranger, grâce à son interprète, dit à Catherine, « Ma chère enfant, quand vous saurez la langue de mon pays, venez-y dans le pays, vous serez reçue comme une reine. » Et il lui laissa son adresse. Peu de temps après, j'appris que Catherine d'Arpajon cherchait un professeur de hollandais. Vous vous présentâtes. Quoique bachelier, ajouta M. Fléchard avec amertume, je me trouvais alors sans position. Je me présentais. « Ah, vous savez donc le hollandais ?»« Oh, ce fut pour moi l'occasion d'en apprendre quelques bribes. Et cette bonne Catherine, qu'est-elle devenue? Oh, je ne l'ai jamais revue depuis. J'ai su seulement que la pauvre petite s'était trompée de langue. Ce n'est pas le hollandais que parlait le planteur, mais le danois. Au lecteur peu versé dans l'art de la géographie, apprenons qu'une des Antilles, l'île Saint-Thomas, est possession danoise. Le planteur en question appartenait sans doute à cette colonie. Et qu'est-ce que vous faites maintenant, mon vieux Fléchard? Actuellement, je suis professeur de gymnastique. De gymnastique? Ajustant son monocle, le baron de Haut-Pertuis s'abîma dans la contemplation des formes plutôt grêles de Jules. Oui, monsieur le baron de gymnastique, oh, je m'attendais bien à vous voir un peu étonné. J'avoue que votre extérieur ne semble pas vous désigner spécialement à cette branche de l'éducation. Comment diable avez-vous eu l'idée? Oh mon Dieu, c'est bien simple. À la suite de déboires de toutes sortes, j'étais devenu neurasthénique. Comment dites-vous cela? Neurasthénique, monsieur le baron. Les médecins me conseillèrent de faire de la gymnastique, beaucoup de gymnastique, rien que de la gymnastique. Une, deux, une, deux. Ah, excellent, en effet, la gymnastique. Excellent, oui, mais voilà. Mes modestes ressources ne me permettant pas de me livrer exclusivement à ce sport, j'eus l'ingénieuse idée d'en vivre en l'enseignant. Et je m'établis professeur de gymnastique. Oh, ce n'est pas là une sotte combinaison, mais avez-vous réussi au moins? À Paris, non. Trop de concurrence, alors je suis venu ici, à Montpaillard. Mais est-ce que votre aspect un peu chétif ne vous fait pas du tort auprès de votre clientèle? Pourquoi cela, monsieur le baron? Aucunement. Il n'est pas nécessaire pour être un bon professeur de gymnastique d'être personnellement un athlète, de même qu'on peut enseigner admirablement la comptabilité sans être pour cela un grand négociant. Oh, votre raisonnement est des plus justes, mon cher Fléchard. D'ailleurs, afin d'éviter le surmenage, le terrible surmenage, je recrute principalement mes élèves parmi les dames et les demoiselles. Quelques-unes sont devenues très fortes, et même plus fortes que moi, ce qui, entre nous, ne constitue pas un record imbattable. Ainsi, mademoiselle Arabella, avez-vous vu mademoiselle Arabella au trapèze? Oh, je l'ai aperçue, mais sans y prêter une grande attention. Oh, vous avez eu tort, monsieur le baron. Mademoiselle Arabella au trapèze, c'est l'incarnation de la force et de la grâce. Oh, vous faites bien de me prévenir, la prochaine fois je regarderai. Oh, le spectacle en vaut la peine. Et Fléchard répéta avec une sorte d'exaltation. Oui, monsieur le baron, l'incarnation de la force et de la grâce. Oh, Fléchard, sourit le baron, quelle chaleur! Seriez-vous amoureux de votre élève, comme dans les romans? Vous plaisantez, monsieur le baron, amoureux de mademoiselle Arabella de Chaville, moi, un humble professeur de gymnastique. À la main, un plateau chargé de lettres placide entrée. Le courrier de monsieur le baron. Vous permettez, mon cher Fléchard? Oh, je vous en prie, monsieur le baron. D'ailleurs, je m'en vais. Sans adieu, Fléchard. Tous mes respects, monsieur le baron. Monsieur Fléchard, ajouta Placide, mademoiselle Arabella vous prie de repasser sur le coup de 5 heures pour sa leçon de gymnastique. Ah! Exulta le pauvre garçon. Chapitre 2, dans lequel le lecteur continuera à se créer de brillantes relations, notamment dans la famille de Chaville et chez quelques-uns de leurs invités. Heureusement qu'à la campagne, et même dans beaucoup de petites villes départementales, les autochtones jouissent d'une endurance fort supérieure à celle de nos Parisiens. Tout de même, il faisait trop chaud, et la partie fut bientôt abandonnée d'un commun accord. Chacun s'achemina vers la véranda, où de la bière fut versée pour les messieurs, du sirop de framboise pour les dames. Pendant que s'abreuvent tous ces quidam, examinons-les à la dérobée. Les maîtres de séance d'abord. Monsieur et madame de Chaville, braves gens quelconques, riches. Monsieur Hubert de Chaville exerçait vers la fin de l'Empire une noce assez carabinée en compagnie de son excellent camarade de Haut-Pertuis, déjà nommé. Arrive l'année terrible de nos désastres. La jeune de Chaville le fait vaillamment, son devoir, en qualité de lieutenant de Mobile. On signe le traité de Francfort. Quelques années après, notre héros épousait une insignifiante et riche cousine qui lui donnait bientôt une petite demoiselle, Lucie, laquelle, à l'époque où se déroulent ces événements, est devenue la plus charmante jeune fille de tout le district. C'est tout. Le membre le plus intéressant de la famille est sans contredit cette Arabelle de Chaville dont il est question plus haut et cousine germaine de Monsieur de Chaville. Puisque le fidèle mais discourtois serviteur Placide a dévoilé l'âge de cette personne, nous n'avons aucune raison de le sceller. Arabella se trouve en effet à la tête d'une belle pièce de 30 ans, copieusement sonnée. Les paraît-elle ? Jules Fléchard le nie, non sans vivacité. Contredire un brave garçon serait criminel. Concluons galamment, si mademoiselle Arabella de Chaville paraît 28 ans, c'est tout le bout du monde. Mettons même 28 printemps pour faire plaisir à Jules. En dépit de son âge un peu avancé pour une jeune fille, Arabella détient un cœur qui n'a pas su vieillir, un cœur ardent qui s'ennuie de battre par les temps de platitude et de morne prose que nous traversons. Riche, bien née, pas plus laide qu'une autre, Arabella ne s'est jamais mariée parce que, tout enfant, elle s'était jurée à elle-même de n'appartenir qu'à un homme qui se serait sacrifié pour elle, un homme qui aurait bravé 1000 dangers, 1000 morts, hein, de ces hommes comme l'on n'en voit plus guère, hélas, depuis la fermeture des croisades. Le cas ne se présenta jamais. Arabella tint son serment et demeura demoiselle. Quand je dis que le cas ne s'est jamais présenté, je me hâte un peu trop, comme la suite de ce récit ne va pas tarder à vous l'apprendre. Je ne devrais peut-être pas vous le dire maintenant, mais tant pis, c'est plus fort que moi. Sachez donc qu'Arabella se mariera vers la fin de ce roman et qu'elle sera très heureuse. Bon, revenons à nos invités. Le baron de Haut-Pertuis, déjà nommé, élégant viveur parisien, le meilleur ami de l'excellent Chaville, chez lequel il vient tous les ans passer quelques jours à la belle saison. Rappelons pour mémoire que le baron est aussi myope, à lui seul, que tout un wagon de bestiaux. Ce détail aura son importance par la suite. Monsieur Dubenoît, maire de Montpaillard, et madame Dubenoît, son épouse. Monsieur Dubenoît n'a qu'une marotte, mais une bonne, la tranquillité de Montpaillard. Depuis la fondation de Montpaillard, fin du XVIe siècle ou commencement du XVIIe, les historiens ne sont pas d'accord. Les révolutions se sont succédées en France, des trônes ont croulé, des têtes de gens huppés tombèrent sous le couperet de la guillotine, des rois connurent le chemin de l'exil, les pires clameurs troublèrent la paix des rues dans bien des cités que de détestables excès allèrent jusqu'à ensanglanter. Seule la petite ville de Montpaillard demeura paisible malgré ses tourments. Depuis Henri IV, proclame M. Dubenoît avec une légitime fierté, oui, messieurs, depuis Henri IV, à part les jours de marché, il n'y a jamais eu le moindre attroupement dans les rues de Pontmaillard. Et devant la mine admirative du baron, il insiste, oui, monsieur de Haut-Pertuis, pas le moindre attroupement. Et tant que j'aurai l'honneur d'être le premier magistrat de Montpaillard, il continuera d'en être ainsi. J'aimerais mieux voir ma ville en cendres que la proie du désordre. Vous êtes bien radical, monsieur le maire, pour un conservateur. C'est maître Guilloche qui lance cette réflexion assez naturelle. Maître Guilloche est un jeune et élégant avocat qui se trouve au nombre des invités. En matière d'ordre, mon cher Guilloche, on ne saurait jamais être trop intransigeant et Si vous et votre parti essayez jamais de troubler mon paillard, vous me trouveriez sur votre chemin. Monsieur Guilloche a donc un parti ? Demande le baron. Parfaitement. Vous pouvez contempler en Monsieur Guilloche le chef du parti révolutionnaire de notre ville, un parti qui compte 17 membres. Chaque fois que Monsieur Guilloche se présente aux élections, il a 18 voix à mon paillard, les 17 voix des révolutionnaires plus la sienne. La dernière fois, il n'a eu que 17 voix parce que un révolutionnaire était malade. 17 révolutionnaires sur une population de 10 000 habitants, concilia le baron, il n'y a pas encore péril en la demeure. Mais dites-moi, mon cher Guilloche, quelle drôle d'idée pour un homme bien élevé comme vous de vous mettre dans ce parti-là. Monsieur Dubenoît ne laissa pas au jeune homme le temps d'exprimer son amour ardent de l'humanité, sa folie de sacrifice pour les déshérités. Il s'écria: ben, comme tous ces pareils, Monsieur Guilloche n'est qu'un ambitieux, un de ces ambitieux qui n'hésiterait pas à provoquer des attroupements dans la rue pour devenir quelque chose dans le gouvernement. Pardon, mon cher Dubenoît, mais devant la réprobation unanime de l'Assemblée hostile aux discussions politiques et religieuses, la conversation bondit sur divers autres tapis. Des groupes se formèrent. Arabella causait avec le baron. Mademoiselle, assurait ce dernier, je me permettrai de n'être point de votre avis. Cette petite ville de Montpaillard n'est nullement désagréable. Je vous affirme, depuis une huitaine de jours que je l'habite, je ne m'y suis pas ennuyé une minute. Si vous y étiez comme moi depuis 20 et quelques années, vous parleriez autrement. Enfin, ce qui est fait, fait. Je terminerai ma vie ici, entre mes cousines et mon cousin, comme une vieille fille. « Oh, mademoiselle !» protesta galamment le baron. Oh, « je parle pour plus tard. »« Ah, dame, oh, il est certain qu'à la longue. »« Et vous, vous allez rentrer à Paris ?»« Oh, pour quelques jours avant de partir à la mer. »« Retrouvez vos amis, votre club, vos maîtresses. » « Mes maîtresses, comme vous y allez ! Oh, ne vous en défendez pas, c'est si naturel pour un homme. Alors, mettons ma maîtresse, et n'en parlons plus. Jolie, très jolie, et d'un désintéressement. Vous me croirez si vous voulez, baron, mais je n'ai pas le courage de blâmer ces femmes-là. Ben, »« Moi non plus, dit le baron, elles n'ont peut-être pas une réputation intacte, mais elles sont déshonorées dans des conditions si charmantes. Et puis, elles mènent une existence pleine d'imprévus et de mouvements, tandis que nous... Le rêve, voyez-vous, baron, ce serait de concilier les vieilles vertus familiales de nos provinces avec une vie un peu accidentée. Mais c'est bien difficile. On finira par trouver une combinaison. Que de fois il m'arrive de songer à tout cela quand je suis seul dans le parc à me promener silencieusement. La solitude m'oppresse, mon esprit se perd en des rêves insensés, un trouble étrange m'envahit. Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Demanda le baron après un instant de silence. Arabella poussa un gros soupir et murmura, non sans avoir légèrement rougi, je fais de la gymnastique. Monsieur de Chaville s'approcha. Ah, je parie qu'Arabella te raconte ses malheurs. Ah, pas du tout. Mademoiselle Arabella ne m'a pas encore donné cette marque de confiance. Je le regrette. N'écoutez pas Hubert, baron. Il se moque de moi. D'ailleurs, ici, tout le monde se moque de moi. « Oh, ne se moque pas de toi, Arabella, on te plaisante un peu, parce que tu es terriblement romanesque. »« Mais, interrompit le baron, mais c'est fort bien d'être romanesque. Toutes les femmes devraient être romanesques. Moi, si j'avais été femme, j'aurais été romanesque. »« Oui, mon vieux, mais, ajouta Monsieur de Chaville en regardant Arabella, oui, mais... L'aurais-tu été au point de nourrir pendant 3 ans un prisonnier dans la prison de Montpaillard, de lui envoyer tous les jours un panier de provisions avec du vieux Bourgogne et les cigares de la Havane.
Oh, comment, Albert, tu savais?
Dit Arabella confuse. Certainement, oui, je le savais. Et je t'en parle aujourd'hui uniquement parce que c'est demain le dernier jour du condamné.
On va le guillotiner?
Frémit le baron. Non, le relâcher. Tout simplement, ces 3 mois sont finis.
Cette aventure me paraît des plus pittoresques.
Le rouge de la pudeur outragée incendiait la figure d'Arabella.
Oh, j'espère que tu ne vas pas raconter à monsieur de Haut-Pertuis.
Oh, si, si, je vais lui raconter l'histoire à ta grande honte. Figure-toi, mon cher, qu'Arabella s'est montée la tête pour une espèce de mauvais sujet.
On n'en croyait pas un mot, baron.
Mais pourtant... Alors, inutile de relater la suite de la conversation, puisque le lecteur en trouvera le sujet développé non pas dans le chapitre suivant, mais dans un de ceux qui viennent après. Chapitre 3, dans lequel le lecteur pourra constater qu'on a nullement exagéré en lui présentant dès le début Mademoiselle Arabella de Chaville comme une nature plutôt romanesque. Pauvre Arabella! Non seulement jamais elle ne rencontra le paladin de ses rêves, mais elle a beau regarder autour d'elle, pas un être en le sein duquel elle puisse verser les confidences d'un cœur ardent, d'une âme songeuse. Personne qui la comprenne. Chacun, au contraire, toujours prêt à sourire d'elle. Et puis, dans cette existence sempiternellement la même, morne et plate, pas l'ombre de la plus mince aventure. Les seuls reflets de vie sentimentale, d'existence passionnelle, elle les trouve, mais appâlis par l'évidente fiction du poète, par sa propre inconnaissance des héros, dans les romans ou les journaux qui lui viennent de Paris chaque jour. Oh, être mêlé à l'un de ces drames, même comme victime! Oh, recevoir sur la figure du vitriol que vous projetterait une jalouse, mais ce serait encore du bonheur. Ce serait vivre, au moins. Arabella s'ennuie. Un jour, phénomène assez rare, il se trouva dans le courrier des Chaville une lettre pour elle.
« Je ne connais pas cette écriture-là, » murmura-t-elle en lisant la suscription.
Et elle ne put s'empêcher de frémir. Bien que peu versée dans la graphologie, Arabella avait deviné sur l'enveloppe l'écriture d'un homme amoureux, d'un homme pas banal. Énigmatique instinct, mystérieuse télépathie, quoi au juste? En sait-on rien? Mais quelque chose à ce moment avertit notre ami que cette lettre qui lui brûlait les doigts, allait avoir sur sa destinée une influence définitive. Un grand battement de cœur la prit, et ses mains tremblèrent à ce point qu'elle dut attendre plusieurs minutes avant de décacheter l'inquiétante missive. 3 lignes seulement. Mademoiselle, il est de la dernière urgence que vous le sachiez. Il y a un homme qui vous aime dans l'ombre, un désespéré. Arabella ferma les yeux, croyant rêver.
Un homme qui m'aime dans l'ombre,
murmura-t-elle avec une voix dans le genre de celle de Sarah Bernard.
Il y a un homme qui m'aime dans l'ombre.
Et cette idée qu'un homme l'aimait dans l'ombre et que cet homme était désespéré la plongea dans la plus ineffable des extases. Mais qui pouvait bien être ce ténébreux adorateur? Elle chercha l'inconnu dans le monde de ses relations coutumières. Un tel... chose?
Machin?
Oh non, aucun de ces 3-là, ni d'autre. Toute frémissante d'espoir, elle résolut d'attendre les événements. Le lendemain, nouvelle lettre de la même provenance mystérieuse. Le désespéré proclamait qu'il était de plus en plus désespéré,
que son amour devenait de la folie, mais que, bien décidé à ne pas sortir de cette ombre à laquelle il avait fait allusion dans sa lettre de la veille, il continuerait à souffrir en silence. La brûlante correspondance se perpétua dès lors à raison de 2 ou 3 lettres par semaine. Le fond en restait toujours, l'idolâtrie pure, mais la forme en changeait souvent. Tantôt farouche désespérance, tantôt résolution d'énergie, avec parfois même volonté d'en finir d'une façon ou d'une autre. Puis tout à coup, un beau jour, un sombre jour plutôt, le facteur tant guetté n'apporta plus rien à notre héroïne que des journaux ou des catalogues de nos grandes maisons de nouveautés parisiennes. Arabella attendit. Des semaines passèrent. Le mystérieux inconnu semblait s'être retiré dans la plus impénétrable des ombres.
« Rien pour moi ?»
demandait avec une angoisse qu'elle avait peine à dissimuler Arabella au facteur.
« Oh, rien, mademoiselle !» répondait invariablement l'humble fonctionnaire.
Mais que s'était-il passé ? Quelle catastrophe avait brusquement interrompu cette délicieuse et troublante correspondance ? Il était impossible que cet homme, que cet amant fougueux, que ce désespéré, ait vu soudain s'éteindre sa flamme. Une flamme ne s'éteint pas sans raison. Une passion ne disparaît pas sans avoir été assouvie, ou tout au moins sans avoir été découragée. Or, l'inconnu ne pouvait pas être découragé. D'autre part, il n'était pas assouvi. Allons, continuait à songer Arabella frémissante, pourquoi n'écrit-il plus ? S'est-il tué, ainsi qu'il me l'écrivait dans une de ses dernières lettres ? Elle relut cette lettre. La volonté d'en finir d'une manière ou d'une autre n'était pas formelle. Ce devait n'être qu'une façon de parler. Et Arabella se perdait en conjectures, en raisonnements, en hypothèses de toutes sortes. Son imagination enfantait 2 ou 3 romans par jour, dans lesquels s'entremêlaient les plus tragiques aventures. Chapitre 4. Où font une rapide entrée en scène des personnages divers destinés à jouer un grand rôle dans la suite de cette histoire. C'est par une nuit sans lune, sans étoiles, sans planètes, tranchons le mot, sans astre. Lamentable pour un amateur de cosmographie, les conditions météorologiques de ce firmament sont de celles qu'accueillent avec ferveur tous les gentlemen dont le travail emprunte quelques dangers à être exécuté non seulement au grand jour, mais encore au plus discret des clairs de lune. Garde champêtre, veillez ! Docile à cette objurgation, parjure Ovide, garde champêtre à Montpaillan, redoubla de vigilance. Tout à la fois bien lui en prit et mal. Bien, si nous nous plaçons au point de vue de l'ordre si cher à son maître Monsieur du Benoît. Mal, si nous ne considérons que le strict intérêt personnel de l'humble fonctionnaire, lequel récolta au cours de cette mémorable nuit une tripotée, si j'ose dire, tout à fait en disproportion avec la modestie de son grade. Parju, Ovide, représente un de ces gardes champêtres taillés sur le vieux modèle qui servait en France à l'époque où cette grande nation, respectée au dehors, prospérait à l'intérieur. 2 phares seuls guident l'esquif de la conduite de Parju sur l'océan du devoir. Exécution fanatique de la consigne donnée, quelle que soit cette consigne. Vénération excessive du supérieur représentant l'autorité, quel que soit le supérieur et quelle que soit cette autorité. Qu'on me permette une courte mais sage réflexion. Si notre pauvre cher fou de pays ne comptait que des citoyens dans le genre de Parju, Ovide, il y aurait encore de beaux jours pour la France. La veille de cette nuit, sans constellation, Monsieur du Benoît avait rencontré le garde.
Bonjour, Parjure, rien de neuf ?
Oh, rien de neuf, monsieur le maire.
Parfait. Tâchez que cela continue. S'il n'y a rien de neuf d'ici la fin de l'année, je vous ferai avoir une gratification. Ouvrez l'œil et le bon, la nuit comme le jour. Faites des rondes par jus. Faites des rondes de jour. Faites des rondes de nuit. De nuit surtout. Bonsoir, par jus.
Bonsoir, monsieur le maire. Vous pouvez dormir tranquille. Je ferai des rondes comme s'il en pleuvait. Je vais commencer par en faire une cette nuit. Parjus exécuta sa promesse.
Laissant le souci de l'ordre de Montpaillardville aux quelques agents de police citadine que ce soin concerne, Parjus visa plus spécialement la périphérie urbaine ou, pour être moins poseur, la partie rurale de la commune. C'était une nuit sombre, et je dis plus haut, mais c'est une nuit plus silencieuse encore. De temps en temps, Parjus s'arrête, dresse une oreille d'apache et ne perçoit d'autre bruit que le tic-tac de sa massive et ancestrale montre d'argent. Il continue sa route. Le voilà arrivé tout près de la propriété de Chaville. Soudain, des pas se font entendre. Sur le mur sombre du parc se silhouette confusément une forme indécise. Les yeux de Parjus, peu à peu, se sont habitués à l'obscurité. Oh, plus de doute maintenant, un individu s'apprête à escalader la clôture. « Je te tiens, bougie de galvaudeux !» s'écrie Parjus, un peu trop tôt d'ailleurs. D'un bond, tel la panthère de Java, il se rue sur l'homme, mais sans grand profit immédiat, car le dit galvaudeux a déjà offert au garde champêtre, et cela en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, le spectacle gratuit de 36 000 chandelles, spectacle agrémenté de quelques exercices de souplesse et de force, comme disent les programmes des cirques forains. Après quoi, le mystérieux personnage croit devoir se retirer sans attendre la manifestation, toujours flatteuse pourtant de quelques bis. Quand Parjur revint à lui, il était trop tard pour poursuivre celui qu'il avait traité un peu sévèrement de galvaudeux, car si l'homme courait encore, hypothèse vraisemblable, il devait être loin, et dans quelle direction? Allez donc chercher. Le modeste serviteur de l'ordre public demeurait cloué sur place, en proie à la plus vive humiliation de sa carrière. Avoir été rossé, la chose ne comptait pas. Un soldat est-il déshonoré pour être blessé au jeu? Mais le grave, c'est, ayant employé un délinquant, de le lâcher sans seulement prendre son signalement. Si rapide en effet s'était exécuté le conflit que Parjus n'aurait en bonne conscience pu indiquer même vaguement l'aspect physique de son bonhomme. Quand je dis bonhomme, vous m'entendez. Grand ou maigre, blond ou brun, ténor ou baryton, cruelle énigme. Et puis, mais Parjus ne pouvait consentir à croire que vraiment. Il faisait trop noir pour chercher par terre, mais il reviendrait dès le petit jour. Oh non, il la retrouverait. Oh non, le bon Dieu ne permettrait pas une telle erreur. Et puis, disons-le, car il importe qu'on le sache, honte des hontes, humiliation suprême, Parjus venait de s'apercevoir que sa plaque de garde champêtre avait été arrachée dans la lutte. Sa plaque, emblème de l'ordre. Un garde champêtre qui perd sa plaque, n'est-ce pas un régiment auquel on ravit son drapeau? La sueur de l'opprobre perlait à grosses gouttes sur le front blême de Parjus. Oh, mais non, s'essuya-t-il avec sa manche. Elle est tombée par terre. Je vais la retrouver tout à l'heure au lever du soleil. Rentré chez lui, il y trouva une mère Parjus de réveil maussade, beaucoup plus outrée des déchirures à la blouse que des meurtrissures au visage, et triste à constater. Mais les femmes sont ainsi, profondément insoucieuses de l'accroc survenu à l'honneur